right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Action positive, VIH, SIDA présente.
Des préservatifs?
Ouais, mais je sais pas où ils sont.
Où est-ce que, de toute façon?
Mais non.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez vu, nos deux jeunes amis ont décidé d'avoir des rapports sexuels non protégés, et ce, malgré les nombreux risques. VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, Erika et Steve, vous risquez tout ce soir.
Capote ?
Capote.
VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, on ne joue pas avec ça, on met un préservatif.
Atomic Jingles. Le kit d'habillage pré-produit pour votre radio. Près de 80 effets sound design pour illustrer vos voix. 10 baies de radio pour vos promos et speak antennes. 25 modules pré-produits pour des identifiants dynamiques. Plus de musique. Plus de... Insérez juste le nom de votre radio pour obtenir ceci. Plus de hits, 102.5, des bases rythmées.
Plus de musique. Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et pour chaque mix, vous obtenez la version son radio ou son studio. La version bête seule, la version voix seule.
Plus de musique.
Non-stop. Salut, c'est Bob Sinclair.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Plus de 270 personnes qui nous suivent à chaque semaine. Toute l'équipe de Popourri Show vous remercie chaleureusement. Oui, madame, monsieur, bien le bonjour, où que vous soyez, dans les tropiques, ou encore nord du Québec, ou dans les Antilles. On vous dit bien le bonjour, nous sommes en direct de Hot House Studio, l'Université de Toronto, sur www.cut.fm, jusqu'à 13h. Bienvenue à votre magazine de la francophonie Popourri Show, diffusé sur cette antenne depuis bientôt 29 ans. Et aujourd'hui, nous avons l'ingénieur du son, DJ Devera, au microphone Eric Kader. Et nous allons vous aider à naviguer à bord de ce transporteur intercontinental en ce dimanche 21 janvier. Et oui, chaque année, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, les Canadiens sont conviés à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons en profiter pour jeter un regard avec des historiens, des intellectuels noirs, pourquoi pas, parce qu'on les a pas tellement entendus, encore une fois, cette année, malheureusement, dans nos médias. Et donc, Popourri Show et ses radios partenaires, et surtout Radio France Internationale, vous convient à des déclarations de certains historiens de l'Afrique francophone à ne pas rater tout au long de cette émission. Et côté francophonie, torontois ou encore ontarien, comme vous le voulez, nous allons nous pencher sur le dossier de l'éducation. Environ 200 jeunes francophones ont manifesté cette semaine à Queen's Park pour réclamer la création d'une université franco-ontarienne. Mais quelle sera la suite des choses? Et oui, que répond la province? Et quelle université franco-ontarienne voulez-vous? Tout au long de l'émission, pot.pourri@sipatico.ca ou encore 416-946-7000 à ne pas oublier. Et c'est votre émission, donc on vous invite à participer en grand nombre. Francophonie santé cette fois-ci, il y avait un forum populaire, santé sans tabou, tenu hier le 20 février au Collège Boréal à Toronto. Paris gagné pour Reflet Salvéo et ses partenaires. À cette occasion, Reflet Salvéo a dévoilé sa nouvelle plateforme promotionnelle sur la santé mentale pour les francophones de la région du Grand Toronto. Ce projet, je vous rappelle, est financé par le réseau local d'intégration des services de santé du Centre Toronto. Et notre invité aujourd'hui, nul autre que son directeur général, Gilles Marchildon de Reflet Salvéo, sera des nôtres. Dans la première partie de cette émission, Espoir, Espoir. Cette pièce de théâtre qui fait jaser tout le monde à Toronto, et ben, c'est au Théâtre français de Toronto. Peut-on parler d'Haïti sur un ton drôle, introspectif et gai, sur un fond musical et festif? C'est ce que nous proposent les trois auteurs et comédiennes de Espoir. Et notre invité, Guy Mignot, directeur artistique du Théâtre français de Toronto dans la deuxième heure. Et à ne pas oublier, Journée internationale de la francophonie. Eh bien, ici, on pourra parler du mois de la francophonie tout au long du mois de mars. On vous invite à être parmi nos partenaires, nos invités, nos co-animateurs. Inscrivez-vous, il y a de la place pour tout le monde, y compris des bénévoles. pot.pourri@sympatico.ca et envoyez-nous votre logo au plus tôt possible. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça ouelle façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça ouvre le façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. T'avances sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, 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 ma.
Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais.
Je contrôle la maison, apprécie mon parcours. Hende Katako, sa petite coquette des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les camos, pour deux crocos sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'Embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, jamais. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Louis vite ton sac, je veux la recette.
Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, 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 ma.
Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Libreville, Abidjan,
Kote na Douala, Bamako na Dakar, Dani Saint-Péo, Medjik na Darcyé, Bilou na Demdemo, Juna Jana Nae.
Et oui, mesdames, messieurs, bienvenue à Pot Pourri Show. Si vous venez de vous joindre à nous, notre numéro de téléphone, c'est le 86 946 7000. Et nous allons, avant de parler de l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs, j'aimerais parler un petit peu, voir les buzz de nos médias partenaires, en l'occurrence le journal L'Express de Toronto, à qui nous remercions chaleureusement pour sa participation à toutes nos activités communautaires, mais aussi dans le cadre du mois de la francophonie. Merci particulièrement à François Bergeron, qui est l'éditeur en chef depuis très longtemps, je pense plus de 30 ans. Alors, justement, dans le journal de cette semaine, peut-on parler d'Haïti sur un ton drôle, introspectif, émotif et gai, sur un fond musical et festif? C'est ce que nous proposent les trois auteurs et comédiennes de L'Espoir. Merci pour cette belle musique d'accompagnement, cher Didier Devera. Et oui, et en l'occurrence, nous avons Edwige Jean-Pierre, Jenny Laguerre et Carline Zemar, qui est aussi la présidente de l'ACFO de Toronto, mais elle travaille au Collège Boréal. D'ailleurs, elle était là hier lors de ce forum organisé par Reflet Salvéo. Alors, c'est une pièce qui est mise en scène par notre grand ami Guy Mignot, qui est le directeur artistique du Théâtre français de Toronto, qui va malheureusement rendre son tablier au mois de juin ou juillet de cette année, malheureusement. Alors, une pièce qui démarre le 24 février au 6 mars au Théâtre français de Toronto. Nous avons une paire de billets pour les gens qui nous appellent. Mais je pense que nous avons déjà des gens de la semaine dernière qui nous ont appelés. Alors, on va faire un tirage au sort avant la fin de l'émission. Toujours dans le journal L'Express de Toronto de cette semaine, une centaine de personnes, 200 personnes plutôt, s'étaient rassemblées à Toronto jeudi midi devant l'Assemblée législative pour réclamer la création d'une université franco-ontarienne. Vous savez, ça fait grand bruit depuis très longtemps. Oh, j'ai ma petite idée et pensée personnelle sur toute cette histoire. Mais pourquoi Queen's Park ne veut pas prendre de décision? Pourquoi ils sont lents, ils ont la main lourde sur ce dossier? Il y a un an, on était ici à Queen's Park. Aujourd'hui, nous sommes toujours sans réponse et sans engagement clair de notre gouvernement, a rappelé Denis Vaillancourt, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui organisait cette manifestation avec le REFO, les étudiants et la FESFO, la jeunesse franco-ontarienne. Le mouvement veut inciter le gouvernement à créer un conseil de gouverneurs transitoire pour déclencher la planification de cette institution. Et on a commencé les consultations, je vous rappelle, en 2012, mais ça fait 40 ans qu'on veut une université gouvernée par et pour les francophones. Création d'une université de langue française est l'une des 5 grandes priorités de l'AFO pour la prochaine décennie, selon M. Vaillancourt. C'est le maillon manquant, dit-il, du développement de la francophonie ontarienne. Les manifestants, je vous rappelle, souvent un billet de vert et blanc. Les couleurs du drapeau franco-ontarien venaient d'un peu partout de la province. Et puis, 10e journée de réflexion sur l'immigration francophone qui aura lieu à Toronto le 2 mars prochain. Ça aussi, c'est un dossier intéressant. Il me semble qu'on parle de ça depuis très longtemps. Et peut-être avec le nouveau gouvernement fédéral en place, les choses vont s'accélérer. Alors, je vous rappelle que l'organisatrice de cet événement, la FCFA, invite les chercheurs, les intervenants communautaires et les représentants gouvernementaux à s'inscrire d'ici le 20 février pour participer à cet événement. Il y a maintenant une décennie qu'on se donne ce rendez-vous annuel pour faire le point sur les grands enjeux auxquels nous faisons face en matière d'immigration francophone, souligne la présidence de la FCFA, Sylvaine Lantier. Oui. Et le programme de la journée, je vous rappelle, de ce 2 mars prévoit notamment une séance sur le rôle, les actions et les façons de faire des gouvernements provinciaux et des territoriaux en matière d'immigration francophone. Comme on s'y attendait, le festival de films de Ciné-Franco n'aura pas lieu. Eh bien, ça a été annoncé la semaine dernière, c'est dommage. Et nous avons Monsieur Gérard Poupé qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit. Alors, qui a fait beaucoup jaser les gens, nos internautes, amis internautes, mais aussi des membres de certaines sections du gouvernement de l'Ontario. Oui, on a eu des réponses, des effets quand même assez positifs, je dirais. Alors, donc, on est écoutés, les gens nous écoutent, vous aussi passez vos commentaires. Il n'y a pas de sujet tabou ici à l'antenne. CUT 89,5 FM, Popourri Show, l'émission commanditée, comme vous le savez, à chaque semaine, grâce au département d'études françaises, Université de Toronto. Alors, chaque année, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, les Canadiens sont conviés à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Les Canadiens profitent de cette occasion pour célébrer les nombreuses réalisations et contributions des Canadiens noirs qui, tout au long de l'histoire, ont tant fait pour permettre justement au Canada de devenir le pays culturellement diversifié, plein de compassion et prospère dans lequel nous vivons et nous pouvons en être fiers, n'est-ce pas? Alors, mais connaissons-nous vraiment l'histoire ou les histoires de nos concitoyens afro-canadiens? Quelles sont leurs luttes, leurs défis au quotidien? Connaissons-nous vraiment les gaffes du passé, de l'histoire, de ces chefs d'État occidentaux? Popourri Show vous convie à des déclarations de certains historiens qui vont peut-être vous choquer. Mais laissons les Africains parler de leur propre histoire. Ne réinventons pas l'histoire des Africains. Vous savez, depuis que je suis ici au Canada, je trouve ça rigolo des fois. C'est seulement pendant le mois de février que certains organismes, certains médias, organisent des activités ciblant la communauté de race noire au Canada. Mais ces gens sont ici avec nous tout au long de l'année, n'est-ce pas? Et souvent, pour bien faire, ou pour se faire pardonner, on organise des activités tellement folkloriques qui s'arrêtent uniquement à des oiseaux exotiques qui sont en train de chanter ou de danser. Ce n'est pas ça, l'histoire des Noirs. Il faut aussi apporter des intellectuels, des perspectives différentes pour qu'il y ait un vrai dialogue entre les communautés de toutes les races de notre pays. Alors, je vous laisse ici avec quelques témoignages tout au long de cette émission. C'est pas l'émission et moi en particulier qui parlons des Noirs, mais on va laisser les intellectuels, les historiens de l'Afrique francophone, le berceau de la civilisation, parler et nous donner, partager leurs perspectives. Cette année, en 2016, le gouvernement du Canada célèbre officiellement la 20e fois le mois de l'histoire des Noirs. Et oui, C'est à la suite d'une motion présentée à la Chambre des communes par la première Canadienne noire élue au Parlement, l'honorable Jean Augustin, que le mois de février a été déclaré officiellement mois de l'histoire des Noirs au Canada. La motion a été adoptée à l'unanimité en décembre 1995 et le gouvernement du Canada a célébré officiellement le mois de l'histoire des Noirs pour la toute première fois en 1996. Pour souligner cet important anniversaire, le gouvernement du Canada prépare des activités et du matériel promotionnel, notamment des affiches éducatives. Le mois de l'histoire des Noirs met en valeur, je vous rappelle, les principaux événements et les réalisations courageuses des personnes qui ont aidé à écrire l'histoire des Noirs au Canada. On reconnaîtra aussi les faits et les moments marquants de cette histoire en remontant aux premiers établissements au Canada, en traitant de l'abolition de l'esclavage et du chemin de fer clandestin et en présentant d'éminents Canadiens de race noire de toute profession qui ont joué des rôles décisifs. Et oui, je vous invite, madame, monsieur, à vous renseigner au sujet du mois de l'histoire des Noirs et la célébration du 20e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs dans la galerie de photos sur le site du gouvernement fédéral.
Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ses matières, valorise ses matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse.
Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident, en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État-nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt que à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, etc. Mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts, même africains, ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation, avec des structures inégalitaires et non viables historiquement, comme la France-Afrique, ce n'est pas viable historiquement. Et eux-mêmes, ils commencent à critiquer ça, et les Africains résistent, ils veulent encore la France-Afrique.
Qui aura l'Afrique dominera le monde. Émission spéciale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Maître Tim.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
Et oui, notre cher ami Gims, très 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 populaire en France, il est le grand vainqueur de Victoire de la Musique récemment, mais aussi très très entendu en Haïti, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion et aussi dans les Antilles, Guadeloupe et Saint-Martin, Sainte-Barthe et Martinique, Guadeloupe, alors bravo. Et puis merci hein, à tous ces gens qui nous envoient des messages, qui vérifient nos pages Facebook. Alors, je pense à la semaine d'avant, on avait eu comme 272 personnes qui ont visité notre page. Alors, un gros, gros, gros merci à vous qui nous écoutez. Et nous avons besoin de vous, justement, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, mais aussi dans le cadre du mois de la francophonie, tout au long du mois de mars. Pour nous joindre en studio, si vous voulez jaser, partager votre opinion, c'est le 86 946 7000, Popourri Show, bon brunch.
J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai
está?
Des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, bravo!
J'ai des amis dans les îles.
On t'y goûte miel, on t'y goûte fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello?
Bonjour!
Tant que la terre sera ronde, j'irai
ici,
tour du monde,
là-bas,
voir d'autres
tout un monde. Did you know there are now 8 different ways in which you can listen to your favorite programs on CIUT? From Barrie to Buffalo, Kitchener to Cobourg, you can pick us up on 89.5 FM. We also stream online at www.ciut.fm, on Rogers Digital Cable, Channel 946, Channel 970 on Bell 5 TV, Star Choice Satellite offers CIUT on Channel 826, and you can pick us up on the TuneIn Radio app and under College and Campus Radio on iTunes. Finally, you can listen or download CIUT program archives at ciut.fm. CIUT 89.5 FM, delivering the new sound of your city everywhere.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle que hier, c'était salle comble et je pense que Reflet Savéo a gagné son pari. Il y avait ce forum populaire Santé sans tabou et il y avait aussi le dévoilement de la campagne de sensibilisation à la santé mentale. On en parle tout à l'heure dans quelques minutes avec le directeur général de Reflet Savéo, monsieur Gilles Marchildon. J'aime bien cette voix formidable de Ariane Moffat. Oui, j'aimerais ça un jour la rencontrer, l'inviter à l'émission. C'est une femme extraordinaire qui nous fait rêver à travers ses chansons. Et à ne pas partir, je vous rappelle, dans la deuxième heure, nous allons recevoir le directeur artistique, M. Guy Mignot. Nous allons essayer de le piéger un peu. On va lui faire parler pour savoir un peu ce qu'il en pense de l'actualité de la francophonie à Toronto et surtout en Ontario avec Le débat sur l'université franco-ontarienne. Alors, on va essayer de poser la même question à tous nos invités aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que c'est dans l'intérêt public. C'est bon de savoir ce qu'en pensent nos leaders de la francophonie, n'est-ce pas?
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
La langue parlée, c'est un art, celui d'une mise en bouche, l'apprentissage d'un rythme, d'une intonation, une musique des mots. Avec nous, pour en parler, Étienne Minungou, comédien, auteur et adaptateur de pièces de théâtre.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Et oui, madame, monsieur, on fait de la culture physique ici aujourd'hui pour garder en pleine forme, nous garder en pleine forme. Justement, hier, il y avait ce grand forum populaire. Ah, il y avait du monde, hein, des jeunes, des moins jeunes, des immigrants, des personnes âgées. Alors, c'est formidable. Bravo à Reflet Salvéo. Donc, ce forum populaire avait pour titre « Santé sans tabou ». Et c'était tenu hier, le 20 février, au Collège Boréal, à Toronto. Paris gagné donc pour Reflet Salvéo et ses partenaires. Et à cette occasion, Reflet Salvéo en a profité pour dévoiler sa campagne de sensibilisation à la santé mentale. Et je vous rappelle que ce forum a été financé par le réseau local d'intégration des services de santé du Centre Toronto. Je sais que monsieur, madame, tout le monde se pose la question, c'est quoi la relation entre le ministère de la Santé, entre le Centre francophone qui offre aussi des fois des services en santé, les cliniques, les hôpitaux, Reflet Salvéo. Alors, ils ne sont pas compris. Pour nous éclairer un peu, éclairer notre lanterne, nul d'autre que son directeur général, lui-même, en personne, qui nous écoute régulièrement, M. Gilles Marchildon. Bonjour.
Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de Popoli.
Oui, alors, merci d'être là. Et d'ailleurs, bravo, félicitations. Vous avez, j'en ai parlé parce que moi, je trouve ça formidable. J'étais sur place, hein, il faut bien dire.
Ouais, absolument, je trouve... oui. Très apprécié que tu, toi et plus de 70 autres personnes, vous soyez venus un samedi passer une bonne partie de la journée avec nous pour parler de santé sans tabou.
Oui. Et avant de faire la genèse un petit peu de ce projet, quand même, qui a eu beaucoup de succès, il y avait quand même des bénévoles. Il faut bien saluer tous ces gens qui se sont déplacés un samedi pour vous aider à monter cette activité, hein?
Absolument. On apprécie énormément leur participation, leur appui, leur intérêt pour les questions de santé.
Oui. Alors, qui en a eu l'idée? Comment c'est parti ce projet? Je sais que vous l'avez expliqué pour les gens qui étaient présents hier, mais pour les auditeurs et les internautes à l'étranger, hein, qui nous écoutent aussi, ils veulent savoir un peu santé, francophonie, Ontario, comment ça se situe. Alors, expliquez un peu aux gens la genèse de ce projet, Monsieur Marchildon.
Ben, je dirais que la genèse, il y avait peut-être, on peut dire, deux parents. Si je peux ainsi m'exprimer, c'est que d'une part, il y a notre collaboration avec le programme Employment Action qui soutient les personnes vivant en situation de handicap qui se cherchent de l'emploi ou qui veulent améliorer leur situation économique en termes d'emploi. Et donc, Vincent Francoeur, le coordonnateur de ce programme, nous a approché pour voir si on serait ouvert à une collaboration sur un forum pour justement parler de l'accès des personnes ayant un handicap.
Et lui, il est allé un peu plus loin, il a ajouté du théâtre là-dedans.
Tout à fait, tout à fait. C'était une partie vraiment, je pense, très appréciée du programme d'hier.
Ouais. Et c'est bon pour démystifier un peu, parce que c'est encore très tabou quand on parle de santé mentale, y compris dans la communauté immigrante et francophone en général. Et là, je pense, en voyant des personnes comme vous et moi jouer un petit rôle, pour justement nous faire prendre conscience sur certaines étapes de la santé mentale. Ça a, je pense, aidé les participants à mieux saisir les enjeux, n'est-ce pas?
Exactement, oui. Et justement, l'autre source d'inspiration ou l'autre parent ou responsable de la genèse de ce forum, c'est donc, et tu l'as mentionné, le AIRLIS, le réseau local d'intégration des services de santé du Centre Toronto, qui nous a appuyé financièrement afin de développer une campagne, toute une campagne de promotion de la santé mentale. Et donc, hier après-midi, c'était le moment de lancement de cette campagne que les gens peuvent aller consulter sur notre site web reflet-salveo.ca/santé-mentale.
Oui. Et là, vous avez fait un bon coup, je dois dire, parce qu'en rentrant dans la salle, avant d'entrer dans la salle, sur les murs du Collège Boréal, il y avait des images phares de ces personnages communautaires, des figures, des têtes d'affiche, je dirais, de la communauté francophone, qui sont un peu les porte-paroles, les porte-étendards de cette campagne. Et ça, c'est un bon coup, je trouve, de votre part.
Bien, merci de le signaler. Et oui, j'en profite pour remercier ces 5 personnes qui ont bien voulu participer à une session photo et de permettre que leur visage associé à cette campagne.
Il faut dire que parmi ces personnes, il y en a qui sont très bien connus dans la communauté, n'est-ce pas?
Oui, notamment, donc on peut penser à Ronald Dielemann, ancien président du groupe Franco-Queer, et Marlène Tellus-Morémy, qui est très impliquée au niveau de la santé dans la région de Scarborough et qui enseigne au Collège Boréal et qui est membre bénévole du conseil d'administration de Reflet Salveo, très active aussi au niveau de la communauté haïtienne.
Mmh. Alors, je rappelle aux gens que cette campagne, qui est très intéressante, je trouve, est très interactive, il faut bien le dire, est constituée d'une page Internet, comme vous venez de le dire. Et puis, il y a d'autres outils, entre autres, un cahier des humeurs. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un petit cahier imprimé en format papier, là,
oui,
où les gens, c'est un outil pour que les gens, pour provoquer la discussion sur les enjeux de santé mentale. Et donc, c'est un outil qui tente de permettre aux gens de prendre connaissance de leurs propres états d'humeur.
Alors, je l'ai devant moi, ça dit la page couverture, j'explore, j'observe, je note. Détecteur d'humeur. Et puis, comment je me sens? C'est un guide interactif sur le bien-être mental. Et puis, il y a des photos, des trucs comme si que les petits-enfants peuvent dessiner. Vous savez, quand on va au restaurant, des fois, pour les garder tranquilles, là, les enfants, on leur donne un crayon, n'est-ce pas? Et puis, là, ils peuvent dessiner ou colorer les images qu'on leur donne. Et c'est un peu ça, hein, je trouve. C'est pour nous aider à mieux nous connaître et prendre conscience de notre état de santé, n'est-ce pas?
Justement, et c'est le point de départ, et on a voulu que cet outil soit très accessible.
Mais
effectivement, des gens de très jeune âge pourraient se pencher là-dessus et s'amuser, l'interpréter à leur manière, mais c'est destiné pour le grand public.
Je dois dire que dans une autre vie, je viens de terminer des groupes focus avec une certaine partie de la population francophone et on a découvert que beaucoup d'immigrants et peut-être aussi des gens natifs d'ici trouvent que c'est plus accessible pour eux de voir des images pour bien comprendre et saisir l'importance de certains messages, surtout dans le domaine de la santé. Et c'est drôle, hein, parce que c'est pas tout le monde qui aime lire des rapports ou bien des grands documents scientifiques, médicaux, compliqués, n'est-ce pas?
Et je pense pas que c'est complètement nouveau comme idée, ouais, parce que de là, on connaît bien l'ancien dicton « une image vaut mille mots ».
Voilà.
Et voilà, je pense que ça fait très longtemps que, en tant qu'être humain, on est très influencé par l'image et par l'anecdote aussi et par les histoires.
Oui. Avant qu'on parle un petit peu d'autres éléments dans ce cahier, détecteur d'humeur, que je trouve très bien comme titre, qu'est-ce qu'on a appris hier? Parce qu'il y avait une personne du Centre francophone de Toronto, il y avait aussi Asatou Sanko de Okasi qui nous a parlé des handicaps et les mythes et les réalités. Mais surtout, j'aimerais revenir sur la présentation de Lucie Chauvrette, qui travaille au Centre francophone de Toronto, qui nous a parlé un peu sur l'impact des handicaps et maladies chroniques sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'on a appris d'elle, finalement?
Je pense qu'il y avait plusieurs éléments à sa présentation. Je pense que l'un sur lequel je voudrais m'attarder, c'est l'importance du cercle social. Et que c'est important qu'on soit bien entouré. Et d'ailleurs, plusieurs études le démontrent qu'on réussit davantage à bien gérer des troubles de santé mentale lorsqu'on a l'appui de notre environnement social. Et donc, même si on n'est pas affecté directement par un problème, on peut jouer un rôle très important dans la santé mentale de quelqu'un d'autre.
Oui. Alors, les gens ont très bien réagi, je trouve. Il y avait quelques personnes là, et entre autres une personne du conseil d'administration d'Action Positive qui m'a posé la question. Elle aurait aimé entendre le santé mentale / VIH, parce que ça, c'est un aspect aussi qui est assez fort chez les personnes vivant avec le VIH, n'est-ce pas?
Oui, ben tout à fait. Je pense que c'est vrai pour de nombreuses maladies chroniques que la santé mentale est un enjeu particulièrement fragile.
Voilà.
Et donc, de là l'importance à assurer que le dialogue se fasse partout.
Oui. Alors, pour les gens qui connaissent encore mal Reflet Salvéo, moi, je suis convaincu que dans quelques mois, quelques années même, vous allez être très, très, très populaire, parce que hier, on en a vu l'engouement des gens de la communauté, y compris les membres des médias qui étaient là. Quel est le rôle, le mandat, en deux mots, de Reflet Salvéo?
En deux mots, notre rôle, c'est de conseiller le système de santé sur les moyens à prendre pour améliorer les services de santé aux francophones. Et quand on dit conseiller le système de santé, on parle notamment de notre rôle de conseiller auprès des AIRLIS, les réseaux locaux d'intégration des services de santé.
Donc vous êtes un peu le chien de garde, vous êtes là pour surveiller justement que le ministère de la Santé, cette grosse machine du gouvernement, ait un regard particulier et adapté pour les besoins des francophones et surtout les malades, les patients.
Je préférerais, plutôt que d'utiliser l'expression « chien de garde », dire « nous sommes des collaborateurs communautaires ».
Oui.
Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un dialogue éclairé, donc qui repose sur notre expertise en planification des services de santé. Et c'est donc d'avoir un dialogue pour tenter d'éviter que des problèmes se produisent et de tenter de trouver des solutions pour réduire les barrières qui existent. Donc, essayer de prévenir plutôt que guérir.
Oui.
C'est approprié comme expression, puisqu'on parle de santé.
Oui, je rappelle aux gens que je suis en compagnie du directeur général de Reflet Salvéo. Allez sur leur site web, vous allez tout y découvrir. Et il est le directeur général de Reflet Salvéo depuis quoi, 2 ans? Un peu plus de 2 ans maintenant?
Presque 2 ans.
Oui, voilà. Alors, pour revenir et pour conclure cet entretien, les gens, je vous invite, madame, monsieur, comment faire d'ailleurs pour procurer de ces documents, ce petit livret-là que j'ai entre les mains, détecteur d'humeur?
Ben, on peut nous contacter par téléphone, courriel, ou toutes nos coordonnées se trouvent sur notre site web, reflet-salvéo.ca.
Alors, voilà. Et une des pages et des sections que j'aimerais parler avec vous avant de partir, que je trouve qui est très, 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 très important. Il ne faut pas hésiter si on souffre, on a une déficience quelconque ou bien on est diagnostiqué avec une maladie liée à la santé mentale, n'est-ce pas? C'est ça l'affaire. Vous voulez comme familiariser les gens avec les différentes situations afin qu'ils se sentent assez à l'aise d'en parler et d'aller chercher des soins nécessaires et d'être entouré par des spécialistes ou des membres de la famille, de la communauté, n'est-ce pas? Il y a à la page 18, ça dit « La santé mentale, tu crains peut-être la maladie mentale et tu la comprends mal. Cette crainte disparaîtra lorsque tu seras mieux informé. » Les maladies mentales, tout comme les malaises physiques, peuvent prendre plusieurs formes. Informe-toi davantage pour briser les tabous. Et là, vous donnez différents types. Anxiété, troubles bipolaires, troubles de la personnalité limitée, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, troubles d'alimentation, tendance suicidaire et tant d'autres encore. Je trouve que c'est très, très, très bien fait. Et je demande aux gens d'aller sur votre site reflet-salveo.ca ou encore pour savoir plus sur la nouvelle campagne de sensibilisation à la santé mentale. Vous pouvez aller sur le site de Reflet Salveo, madame, monsieur, c'est www.reflet-salveo.ca/santé-mentale, n'est-ce pas?
Tout à fait. Mm-hmm. Merci beaucoup de votre intérêt et de votre appui dans nos efforts pour réduire les tabous, la stigmatisation, les idées préconçues. Je pense que c'est dans l'intérêt de nous tous en tant qu'individus qui possiblement pourraient faire face à des défis sur le plan de la santé mentale ou qu'on puisse aider, appuyer des gens dans notre entourage qui sont dans cette situation.
Oui. Alors d'ailleurs, pendant le mois de la francophonie, Gilles, j'aimerais avoir un dimanche consacré à la santé et francophonie. Une langue en santé, hein, pourquoi pas? Alors, s'il y a des collaborateurs, des spécialistes ou des partenaires qui aimeraient porter leur voix, prêter leur voix pour une émission spéciale dans le cadre du mois de la francophonie, alors vous nous tenez au courant. Et je vous remercie hein, de la part de toute l'équipe du département d'études françaises, de nos auditeurs pour votre appui. Je sais que vous nous soutenez à votre façon depuis très longtemps et c'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup.
Ben, c'est un plaisir, un grand plaisir et bravo pour votre excellent travail que vous faites depuis bientôt 29 ans.
Allez, bon dimanche et on se reparle bientôt et bien le bonjour à toute l'équipe.
Merci.
Au revoir.
Un plaisir.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez Maître Gims à la demande générale, entre autres cette auditrice de la région de Rennes en Bretagne à qui nous disons bien le bonjour. Nous avons reçu une très belle carte d'elle cette semaine. Merci infiniment. Et je vous rappelle que vous écoutez Popourri Show pour nous joindre tout au long de cette émission. C'est le 86 946 7000 ou encore envoyez-nous un message pot.pourri@sympatico.ca, facebook.com/popourrishow ou encore Twitter #popourrishow. Chaque année, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, les Canadiens et les Canadiennes sont conviés à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens de race noire, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Mais connaissons-nous vraiment l'histoire ou les histoires de nos citoyens afro-canadiens? Quelles sont leurs luttes, leurs défis au quotidien? Connaissons-nous les gaffes ou encore les effets du colonialisme? Eh oui, Tout au long de cette émission, nous allons entendre des propos un peu choc peut-être, qui peuvent porter à la polémique, mais nous allons laisser les historiens africains de l'Afrique francophone nous en parler. Une collaboration de Radio France Internationale à Paris.
Vous pouvez me rabaisser aux yeux de l'histoire, avec vos mensonges tordus et amers. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, je me soulèverai.
Est-ce que mon bonheur vous dérange? Pourquoi tant vous assombrir parce que je ris? Comme si j'avais trouvé un puits de pétrole au beau milieu de mon salon.
Comme la lune et le soleil.
Avec la certitude des marées.
Tout comme l'espoir qui jaillit, je me soulèverai.
Vouliez-vous me voir brisé, la tête penchée et les yeux baissés, les épaules tombées comme des larmes, affaiblies par mes cris mélancoliques?
Est-ce mon arrogance qui vous offense? Ne prenez-vous pas ça trop durement, que je ris comme si j'avais des mines d'or dans mon arrière-cour?
Vous pouvez bien me fusiller avec vos mots, me lacérer avec vos yeux. Vous pouvez me tuer avec votre haine, mais comme l'air, je me soulèverai.
Est-ce mon sexe à pull qui vous dérange? Est-ce que cela vous surprend que je danse comme si j'avais des diamants entre les cuisses?
Hors des huttes de la honte de l'histoire, je me soulèverai. Loin d'un passé enraciné dans la douleur, je me soulèverai. Je suis un océan noir, large et bondissant. Au fil des vagues, je supporte la marée.
Laissant derrière moi les nuits de terreur et de peur, je me soulève. Vers une eau merveilleusement claire, je me soulève. Avec les cadeaux de mes ancêtres, je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me soulèverai. Je me soulèverai. Je me soulèverai.
Action positive VIH SIDA présente.
Des préservatifs?
Ouais, mais je sais pas où ils sont.
On risque rien de toute façon.
Mais non.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez vu, nos deux jeunes amis ont décidé d'avoir des rapports sexuels non protégés, et ce, malgré les nombreux risques. VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, Erika et Steve, vous risquez tout ce soir.
Capote ?
Capote.
VIH, infection sexuellement transmissible, grossesse non prévue, on ne joue pas avec ça, on met un préservatif.
Hey Toronto, are you looking for some background music for your Wednesday night, where anything goes and no song is off limits? Then tune in to Soundtracks for the Alpha State with me, Chris Duran, every Wednesday night to Thursday morning, midnight to 2 a.m. I play the best in indie, electro, shoegaze, trip-hop, and much more. Theme shows are a thing, and no two shows are ever the same or your money back. You can hear it here only on CIUT 89.5 FM, the new sound of your city.
Join us for Discount Tuesdays at Carlton Cinema. All shows, all ages, for just $5. Carlton Cinema is located at 20 Carlton Street, just east of Young and College. The Carlton, where there's something for everyone. Visit carltoncinema.ca or follow us on social media at MLT Carlton.
The Batuki Music Society presents the Okavango African Orchestra's CD release concert. The performance will take place on Saturday, February 27th at the Ada Slade Hall, Daniel Spectrum, located at 585 Dundas Street East, Toronto. Tickets are $15 in advance from Soundscapes and African Drum and Art Crafts, or you may purchase online at Eventbrite, $20 at the door. Showtime, 9 p.m. Go to batukimusic.com for additional information. Okavango African Orchestra, 12 instruments, 10 languages, 7 countries, one special concert. Saturday, February 27th. Brought to you in part by CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto.
Précis.
Cécile Lafitte.
Il y avait un vote des primaires démocrates dans le Nevada aux États-Unis ce samedi. Hillary Clinton remporte de justesse cette primaire avec 52% des voix. Ce n'est pas encore un résultat définitif. Il reste à dépouiller 20% des bulletins. Et dans le Nevada, royaume des casinos, au moins deux bureaux de vote ont utilisé des cartes à jouer pour désigner le vainqueur, Hillary Clinton ou Bernie Sanders. Dans ces deux cas, Hillary Clinton a eu de la chance. Les îles Fidji voient passer un cyclone très puissant, Winston, un cyclone tropical de catégorie 5. Au moins une personne a perdu la vie et d'importants dégâts sont à noter dans les villages les plus isolés de l'archipel de l'océan Pacifique. Mais les rafales les plus violentes ont épargné la capitale Suva. Plusieurs milliers de Slovènes ont manifesté contre l'ouverture d'un centre d'accueil des migrants près de Ljubljana. C'est le plus important rassemblement de protestation contre un site d'hébergement des réfugiés depuis octobre. Hier soir, vous le savez, un compromis a été trouvé entre le Conseil européen et le Royaume-Uni à Bruxelles pour que la Grande-Bretagne ait un statut spécial dans l'Union européenne. Les Britanniques devront dire le 23 juin prochain, donc dans 4 mois, s'ils restent dans l'Union européenne avec cet accord ou s'ils préfèrent la quitter. Le point le plus crucial de cet accord est la possibilité pour la Grande-Bretagne de limiter l'immigration à ses frontières et de ne plus proposer les mêmes aides sociales aux migrants qu'aux citoyens britanniques, un point qui a été difficile à faire admettre aux autres pays européens. Au Maroc, plusieurs centaines de militants se sont rassemblés à Rabat. Ils marquaient ainsi le 5e anniversaire du mouvement du 20 février, un mouvement né durant le printemps arabe. Les militants ont appelé à la justice sociale et à l'arrêt de la répression policière. Les autorités, elles, affirment que l'essentiel des revendications ont été satisfaites avec l'adoption à l'été 2011 d'une nouvelle constitution. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé ce samedi soir à Amman, en Jordanie. Il doit rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas avant d'être reçu à Aqaba par le roi Abdallah. Les discussions porteront essentiellement sur la Syrie. Le Festival de cinéma de Berlin a décerné sa plus haute récompense, l'Ours d'or, à un documentaire sur les réfugiés à Lampedusa, un film italien intitulé Fuoco a Mare. Ce film fait un parallèle entre le quotidien des habitants de cette île et celui des milliers de migrants qui arrivent en bateau dans des conditions catastrophiques. Et puis, une Française remporte l'Ours d'argent pour la meilleure réalisation. Il s'agit de Mia Hansen-Love pour son film L'Avenir. Enfin, un Tunisien a gagné l'Ours d'argent du meilleur acteur, c'est Majd.
La Radio Mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la Radio Mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI. Les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de viel que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta.
Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera, oui cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi où chacun de nous. Oui, dans un monde meilleur.
Et oui, dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera, qui doit nous guider. Mesdames, Messieurs, je suis allé dans les archives de Radio France Internationale et j'ai fouillé dans la mémoire d'un continent pour vous présenter l'histoire de l'Afrique vue par un grand historien, Joseph Kizerbo. Pour Joseph Kizerbo, auteur de l'histoire de l'Afrique noire d'hier à demain aux éditions Attier, publié en 1972, l'histoire n'est pas seulement l'étude du passé lointain. Elle doit aussi rencontrer des évolutions contemporaines et aider à les comprendre. Son œuvre continue de nourrir le débat entre spécialistes aujourd'hui. Eh oui, débat organisé à la Sorbonne à l'occasion de la remise à Joseph Kizerbo du prix Radio France Internationale Témoin du Monde en 2004. Merci à Radio France Internationale pour cet entretien.
Amanda! Amanda!
mémoire d'un continent.
D'hier à aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique vue par Joseph Kizerbo et Likia Mbokolo. Historien, Joseph Kizerbo s'est surtout intéressé aux questions de méthode et aux questions de théorie. Comment écrire l'histoire de l'Afrique? Quelles sources utiliser? Quel point de vue prendre? Mais Joseph Kizerbo a été aussi un auteur d'ouvrages d'histoire. Il a écrit des manuels, il a écrit des livres de référence, en particulier cette histoire de l'Afrique d'hier à demain, qui continue aujourd'hui d'être lue par des étudiants et d'être discutée par des étudiants et des chercheurs. Ce débat s'est poursuivi à Paris en mars 2004, à l'occasion de la remise du prix RFI Témoin du Monde, prix qui lui a été décerné à la suite de la publication du livre « À quand l'Afrique ?». Ce livre « À quand l'Afrique ?» est un livre de prospective, mais c'est aussi un livre d'histoire et c'était pour tous les historiens une merveilleuse occasion de remettre en perspective ce que Joseph Kizerbo a écrit sur le passé africain. À ce débat participent Jean-Pierre Chrétien, historien, directeur de recherche au CNRS, Pierre Kipré, professeur à l'École normale supérieure d'Abidjan, ancien ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire, Moïla Chilembe, politologue, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique, et Likia Mbokolo, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, débat animé par Gilles Schneller, qui était à l'époque directeur général adjoint, chargé des antennes et de programmes de RFI. Gilles Schneider.
Comment, Monsieur Mbokolo, comment réinterpréter pour les Africains, c'est un des objectifs, hein, l'histoire de l'Afrique?
Comment réinterpréter et comment peut-être plus directement construire cette histoire? Parce que ce qui me frappe dans la démarche de Joseph, ça a été naturellement une volonté de réinterpréter l'histoire et donc de dire tous ceux ou presque tous ceux qui ont écrit avant nous ou se sont trompés involontairement ou ont volontairement dit des faussetés sur l'histoire de l'Afrique.
M. Kizerbo dit qu'il faut prendre en compte, de toute façon, y compris pour la critique, hein, tous les travaux qui ont été faits, y compris le travail qui a été fait sous la colonisation.
Naturellement, il faut les prendre en compte parce qu'on ne peut pas réinventer la roue et partir constamment de zéro. Mais lorsque des gens ont dit des choses qui sont des faussetés, il faut les détruire. Mais le travail de l'historien ne peut pas consister simplement à redresser ce que les autres ont dit de négatif. D'autant plus que beaucoup d'aspects, beaucoup de régions, vous avez évoqué tout à l'heure les multiples Afriques qui forment le continent africain, beaucoup de régions, beaucoup d'aspects de cette histoire ont été totalement méconnus. Donc plutôt que d'un travail de réinterprétation de l'histoire, qui mettrait donc l'historien africain dans une position seconde, dans une position de réponse par rapport à d'autres, moi je dirais que ce à quoi nous assistons dans les travaux de Joseph, et ce que nous faisons nous-mêmes, c'est la production d'une connaissance historique. Et cette production de connaissance historique, nous la faisons en effet avec à la fois ce côté technique du maniement de toutes les sources possibles, ces sources orales, ces sources écrites. Et tout à l'heure, il a été rappelé par notre président qu'avec Philippe Saint-Denis, nous avons fait un produit d'histoire orale du temps présent. Pas donc les sources orales, c'est pas seulement les vieux sous un arbre qui racontent des choses d'avant-hier. Hein. C'est aussi des choses qui se passent aujourd'hui ou par rapport au processus de démocratisation, par rapport à la mondialisation, par rapport au prix du cacao et du coton. Les gens réagissent, disent des choses, et des choses que, évidemment, si nous ne prenons pas garde, des choses dont nous ne retrouverons pas la trace dans 40 ou 50 ans. Et donc, ce caractère-là, je crois, qui est très très singulier pour l'historien africain, qui fait peut-être, je pense, la charge de travail qui pèse sur lui, surtout à l'époque des pionniers, est une charge considérable, parce que il lui faut en effet mobiliser la totalité de ses sources pour donner à voir une histoire qui ne soit pas seulement une histoire qui est en réponse par rapport à d'autres. Alors je voudrais ajouter aussi une chose par rapport à Joseph Kizerbo, c'est que il y a un avant Joseph et un après Joseph. Avant Joseph, il y a tous ceux qui étaient préoccupés par les origines. Et avant Joseph, il y avait aussi tous ceux qui pensaient que l'histoire c'est d'abord l'histoire du politique, l'histoire de la politique, l'histoire de l'État et des formations politiques. Joseph a été l'un des premiers, je pense sous l'impulsion d'un certain nombre de maîtres français de l'école des Annales, il a été l'un des premiers à tenter, avec une audace et une aisance d'ailleurs très remarquable, de présenter une histoire économique et sociale du continent africain.
Parce que si on chausse les lunettes occidentales, on a l'impression, je parle de l'histoire là, hein, par rapport à l'Afrique, on a l'impression d'une, et vous le soulignez, hein, professeur, une succession pour l'Afrique de dépossession. Or, si on reprend l'histoire de l'Afrique avec, je dirais, en chaussant des lunettes africaines, ça redonne un peu le moral aux Africains, parce qu'on remet en lumière un certain nombre de grands moments de l'histoire africaine.
Oui, ça remet en place ce qui se passe réellement, c'est-à-dire un continent qui, parfois sur ses marges, le Sahara, l'océan Indien, l'Atlantique, parfois à l'intérieur du continent, a été soumis à un certain nombre de chocs et de violences. Et puis, un continent, Joseph, je crois, accepterait volontiers que je reprenne le mot de Blyden pour le dire, et pourtant, ils sont toujours là. Donc ça veut dire la continuité, la capacité continue d'initiative des sociétés africaines pour répondre à tous ces chocs et quelquefois pour reprendre l'initiative lorsqu'on croit qu'ils ont complètement perdu l'initiative. Et la mondialisation, si vous permettez pour ça, est un thème important parce qu'on a l'impression que par rapport à la mondialisation, les Africains, si vous me permettez de dire ça, sont complètement largués. Et on oublie qu'au moment de la colonisation, on avait l'impression aussi que les Africains étaient complètement largués. Or, la reprise d'initiative a été telle que les indépendances africaines, dont un ancien comme Joseph a été l'un des combattants intellectuels, les indépendances africaines ont été un démenti à l'idée selon laquelle il n'y avait pas d'initiative africaine. Donc il faut que, partant de l'histoire du passé, nous soyons capables, dans les dynamiques d'aujourd'hui, de voir justement ces lieux où bouge l'initiative africaine et ces lieux à partir desquels...
Dans le deuxième débat, mais justement, M. Tshiembe, vous évoquez, vous, la légitimité traditionnelle face à la légitimité d'importation dont on se part sur la scène politique officielle. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer un pouvoir de type africain face à la virtualité, entre guillemets, du pouvoir de type occidental? C'est un peu votre approche, à vous aussi, à la lumière encore des travaux de Joseph Kizerbo, puisque Joseph Kizerbo dit que l'histoire, c'est un moteur à trois temps, hein, le passé, le présent et se projette sur l'avenir.
Oui, merci bien. Je suis plus qu'honoré d'être entré dans cette maison à travers l'invitation que vous m'avez adressée et d'être devant cette éminence. La personne de M. Joseph Kizerbo, par-delà le fait que je ne suis pas historien, j'étais agréablement surpris en lisant quelques-uns des ouvrages qu'il avait déjà publiés, mais pas tout parce que je ne suis pas historien, mais j'ai appris l'histoire à travers les manuels qui sont dégagés de ses propres écrits, c'est de voir que lorsqu'on lui a posé la question « Quelles sont les grandes questions qui se posent aujourd'hui à l'Afrique ?» spontanément, il a répondu « Parmi les questions les plus importantes, il y a d'abord celle de l'État. » Ça, c'était ma grande surprise. Je pensais qu'il aurait pu dire autre chose. Et pourtant, l'État n'a jamais été au centre d'intérêt du débat africain. Peut-être qu'en tant qu'historien, vous en savez plus que moi. Et cette question de l'État est une passion plutôt que seulement un point de chute pour la simple raison que la mondialisation, c'est un problème qui se joue entre les acteurs. Les processus, les acteurs. Or, la manière dont l'Afrique aborde la mondialisation et le chaos africain qui s'élargit chaque jour est aussi lié à l'absence d'acteur principal. Or, cet acteur principal qui est l'État n'existe pas en Afrique. C'est la thèse que je soutiens. Alors, puisque les Africains sont à la marge de la civilisation au sens de la mondialisation, c'est-à-dire des possibilités d'assumer un destin collectif dans le futur, je pense que la question de l'État, en la ramenant au centre d'intérêt de cet avenir pour voir quelle place l'Afrique peut jouer dans la mondialisation, mais sans État, l'Afrique ne peut rien faire. Si on parle du postulat que l'Afrique a initié sa propre modernité et que cette modernité aujourd'hui est reconnue puisqu'elle a existé, notre première interrogation, c'est de dire quels sont les éléments, les outils à travers l'histoire, à travers l'anthropologie, à travers la sociologie, la science politique et bien d'autres sciences, comment partir de cette modernité africaine et refonder le pacte républicain, refonder le pacte démocratique, refonder le pacte constitutionnel, de telle manière que l'Afrique soit un acteur demain à travers la capacité collective additionnée qu'on appelle l'État. Parce que l'État tel qu'il a été conçu, fabriqué par les Africains à travers les empires et les royaumes, c'est un État de plusieurs peuples qui est le lieu de jonction de plusieurs cultures, de plusieurs civilisations, de plusieurs religions. L'État fédère les religions, fédère les peuples. Or, l'État-nation, c'est le contraire d'un État qui fédère les peuples, les cultures et les civilisations et qui est le centre d'intérêt de quelque chose qui se fait.
Est-ce qu'on peut avoir un attelage, la légitimité traditionnelle, la légitimité des États actuels et l'Union africaine? Est-ce que c'est possible?
Il y a une possibilité. C'est-à-dire que si les Africains, sans se refermer dans leur passé, essayaient en tant que processus de faire la jonction entre ce qu'ils portent, c'est-à-dire leur propre acquis historique, et le monde qui est devant nous, parce que la mondialisation, c'est la capacité pour l'Afrique de s'insérer dans la dynamique mondiale. Alors, il y a des éléments de réinvention de notre propre modernité, mais cette modernité, nous la réinventons au regard du monde, au regard d'autres valeurs positives que nous pouvons non seulement adopter, mais que nous pouvons choisir pour les intégrer dans cette dynamique de refondation d'une république multiethnique, d'une communauté de destin qui est fondée sur la reconnaissance de la diversité culturelle et de la diversité ethnique et qui fait que la démocratie telle qu'elle a été réinventée par nos civilisations à travers la démocratie de proximité, c'est-à-dire le fait que chaque lignage, chaque clan avait son propre gouvernement, c'est la modernité du néo-républicanisme ou du néolibéralisme aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'autonomie qui doit être reconnue à chaque segment social et la capacité de réinsérer dans une gestion d'une gouvernance moderne.
On va revenir dans le passé, dans l'histoire. Juste, simplement, je voulais faire réagir M. Kipré sur vos propos. Vous êtes d'accord à ce que vous venez d'entendre ou vous...
Pas tout à fait, parce que l'approche...
C'est pour ça que je vous passais la parole.
Parce l'approche de mon frère Tiembe est une approche qui est fortement influencée par ce jacobinisme français dans lequel on baigne totalement. Or, en lisant les travaux de Joseph, et sur ce point, je partage tout à fait cette approche, il y a trois traits qui caractérisent l'histoire multiséculaire des peuples africains. Il y a d'abord l'attachement à l'autochtonie, qui fonde la volonté de développement endogène de chaque communauté. La deuxième chose, c'est l'ouverture permanente à l'étranger, qui était quasiment sacralisée dans son statut. Et enfin, il y a la pyramide de gestion autonome des entités les plus diverses, qui explique que dans les royaumes et empires d'avant la colonisation, vous aviez cet emboîtement des identités collectives. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Joseph le montre très bien dans de nombreux travaux qui ont été, je dirais, renforcés par d'autres travaux, c'est que avec la colonisation, déjà même avant la colonisation, ça avait commencé, mais avec la colonisation, il n'y a pas simplement un dépérissement de cette logique de l'État ancien, il y a totale décapitation de cette logique. Et le drame actuel de l'Afrique, c'est cette crise d'identité que vivent les communautés où vous avez des dysfonctionnements à différents niveaux qui font que finalement, quand on parle de l'État-nation aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus. Ceux qui sont dans une approche jacobine, je ne dis pas que c'est toi, ceux qui sont dans une approche jacobine se disent, je prends le cas de mon pays, il y a 5 aires culturelles et 60 langues. C'est-à-dire, comment construire un État-nation avec 60 langues, 60 approches, etc. Donc, pour dire que la question de l'État-nation exige une analyse très fine, peut-être depuis les communautés de base jusqu'aux institutions apparemment démocratiques, mais qui sont caractérisées un peu partout en Afrique par la mise en parenthèse du citoyen. Les choses se passent un peu comme si, et j'ai partagé peut-être ce genre de préoccupation avant, lorsque j'étais aux affaires, comme on dit, les hommes politiques africains ont l'impression de dire aux populations, surtout depuis les années 90, nous reconnaissons vos droits, mais calmez-vous, laissez-nous gouverner pour vous.
Alors que c'est l'inverse.
C'est le
dialogue citoyen permanent avec l'homme politique.
Ouais. Et tant que nous n'aurons pas mis le citoyen au cœur de cette construction de l'État-nation, nous aurons toujours quelques difficultés et nous serons dans cette crise d'identité.
À votre avis, on le sait si on a lu Joseph Kizerbo, quand commence vraiment la mondialisation? Il cite le XVIe siècle. Jean-Pierre Chrétien.
Non, c'est, bon, il y a ce mot fétiche, entre guillemets, mais si on voulait dire que l'Afrique a vécu isolée du reste du monde avant même la période coloniale ou avant les navigations du XVIe siècle, ce serait se voiler les yeux devant l'ancienneté, d'abord, des relations interafricaines. Par-delà les monographies de tribus et de villages, l'historien découvre, et le livre de Joseph Kizerbo le soulignait, tous les espaces, à la fois politiques, économiques, religieux, qui se construisaient. D'autre part, il cite, dans son dernier livre, Joseph Kizerbo, cette phrase de Césaire sur le continent africain, poreux au souffle du monde. Bon. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, l'histoire de la côte orientale d'Afrique, vous avez des contacts avec le Proche-Orient ou l'Extrême-Orient qui remontent à des millénaires. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas de la conquête coloniale, ce n'est même pas de l'époque des navigations qui ont débouché ensuite sur la traite esclavagiste que date l'ouverture du continent africain. Le Sahara n'était pas une barrière. Les oasis n'étaient pas des isolats, les oasis étaient des étapes. Donc, il y a une histoire des relations des sociétés africaines, d'une part entre elles, sur des espaces plus vastes qu'on l'imagine d'habitude, et d'autre part avec l'extérieur, que cet extérieur soit méditerranéen, qu'il soit asiatique. Et ensuite, je voudrais aussi relayer ce qu'a souligné Elikam Bokolo sur les acteurs africains récupérant même les produits du malheur, si j'ose dire. C'est-à-dire toutes les ruses, toutes les résistances, toutes les façons dont les sociétés africaines ont réapproprié les situations de la colonisation, ou, par exemple, à partir des XVIe et XVIIe siècles, comment les paysanneries africaines ont su récupérer un apport, bon, c'est, disons, un avantage collatéral. Les plantes d'origine américaine, c'est-à-dire le manioc, la patate douce, le maïs, etc., sans coopération technique, les paysannes africaines, progressivement, ont intégré dans leur terroir, dans leur calendrier agricole, une chose qui m'a frappé et m'intéressé depuis longtemps, tout ce groupe de plantes venues d'Amérique, au point parfois de révolutionner leur production. Il y a eu un livre qui a reçu un prix de l'Agence française pour le développement, le livre de l'agronome Hubert Cochet, soulignant le fait qu'il y a eu toute une série de révolutions agricoles dans la région des Grands Lacs, et même sous la colonisation, des innovations que n'induisait pas l'action du colonisateur lui-même. Donc, cette ouverture au monde, à la limite, même le paysan sur ces collines du Rwanda ou du Burundi qui cultive du maïs, il en a eu un impact lointain avant l'âge de l'internet. Il ne faut pas avoir cette vision figée, fermée sur elle-même du continent africain.
Vous ne voulez pas ajouter quelque chose ?
Tout à fait d'accord. Et je dirais même que si vous prenez des choses comme des pages d'histoire où nous avons probablement beaucoup avancé par rapport à l'époque de Joseph Kizerbo, tout ce qui touche au phénomène religieux, là aussi on se rend compte qu'on a quelquefois l'impression que les Africains sont assis sous leurs arbres ou à côté de leurs rivières en train d'adorer les mêmes dieux, les mêmes fétiches de toute éternité, eh bien, on se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, que même ce qu'on appelle les religions traditionnelles, avec guillemets, ont une histoire qui participe à toutes ces dynamiques, et que, y compris par rapport à ces religions autres venues de l'extérieur, les Africains ne sont pas là comme des élèves de missionnaires que l'on vient former. Ils regardent, quelquefois ce sont eux qui choisissent de prendre la religion des autres, de la transformer, de se l'approprier et finalement de l'adapter à leur terroir et de faire en sorte, comme disait Mamadou Dia, que ces produits de l'extérieur soient comme de l'eau qui viennent chez nous et qui prennent la couleur de nos terres. Voilà, nous devons donc beaucoup à Joseph Kizerbo, nous lui devons beaucoup pour l'histoire politique, mais aussi pour l'histoire économique et sociale, et également pour l'histoire de ces objets extrêmement difficiles que constituent les religions et les spiritualités. Nous retrouverons le doyen, celui qui a été appelé aussi le rebelle, lors d'une dernière émission consacrée à son action pour l'émancipation africaine. Mémoire d'un continent est une émission de Radio France Internationale. Producteur délégué Aimé Guillard, mixage Cyril Etienne, réalisation Alain Bleu, présentation Elikia Mbokolo.
Merci beaucoup Elikia Mbokolo de Radio France Internationale. Et petit message justement aux enseignants, enseignantes qui nous écoutent et régulièrement reçoit des demandes pour aller parler dans les écoles ou encore faire des activités, mais c'est pas notre rôle. Par contre, on peut vous donner quelques idées, si vous voulez. Alors, Donnez à vos élèves, par exemple, l'occasion d'apprendre que l'histoire des Noirs est un pan de l'histoire du Canada. Parmi vos élèves, ils seront sans doute étonnés d'apprendre que l'esclavage a aussi fait partie de notre histoire canadienne. Le mois de l'histoire des Noirs vous donne aussi l'occasion de leur en apprendre plus sur ce sujet. Savez-vous, par exemple, que la loi portant sur l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques a été votée en 1833 et que l'esclavage a alors été aboli dans notre coin du monde? C'est un événement souligné dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. La contribution des Noirs est remarquable à bien des égards. Songeons aux arts ou aux sports qui sont toujours marqués par des gens illustres comme Olivia Jones ou Jackie Robinson, véritables agents de changements sociaux. Ces disciplines ne sont que des exemples parmi tant d'autres où l'on retrouve des Noirs déterminés, audacieux, talentueux. Plusieurs des références qui suivent permettront à vos élèves d'en connaître plus sur l'histoire des Noirs et des acteurs importants. Je vous rappelle que nous allons parler tout à l'heure, dans un instant justement, dans le cadre de l'histoire des Noirs, de cette pièce Espoir, Espoir, qui se joue au Théâtre français de Toronto. Et nous aurons l'occasion et le bonheur, le plaisir d'accueillir le directeur artistique du Théâtre français de Toronto, Monsieur Guy Mignot. Ne partez pas. Pour nous joindre, 416-946-7000. Popourichaud.
Mon invité, il est jeune, mais il est allé creuser. Cela peut paraître de nos jours surprenant, mais les mots « noir » et « nègre » désignent avant toute chose et en réalité les populations eurasiatiques dites abusivement blanches de peau aujourd'hui. En effet, « noir » et « nègre », deux mots signifiant la même chose, qualifient historiquement et socialement parlant l'eurasiatique esclave de naissance ou fait esclave.
Je veux voir.
notre ami Njako Bako, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais qui vit ici à Toronto, madame, monsieur, qui donne des cours de percussion dans les écoles, y compris les conseils scolaires francophones, à qui nous disons bien le bonjour. Njako, c'est sa chanson, dites-le-moi, une réflexion sur notre état d'âme et de ces pays en guerre où on s'entretue, y compris dans l'Afrique francophone et l'Afrique, le continent africain. En général, chaque année, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, c'est un moment de prendre conscience justement de nos concitoyens, leur vécu, leur passé, leurs histoires et aussi leur santé. Hein. Pourquoi pas aujourd'hui, on est un peu dans le thème de la santé avec ce forum populaire tenu au Collège Boréal grâce à Reflet Salvéo et Airlis Toronto, Centre Toronto. Donc, merci beaucoup à Gilles Marchildon qui était avec nous lors de la première heure. Et oui, je sais qu'il y a notre ami de toujours, le directeur artistique du Théâtre français de Toronto qui va venir nous présenter cette pièce un peu créole, teintée aux couleurs d'Haïti, avec des charmantes comédiennes. Ne partez pas, restez des nôtres.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM, Toronto.
Ah, Jalinango Jire, oh, eh, ah, para, Jalinango Jire, oh, oh, yo. Joli, joli.
Ah, ah. Para, Jalinango,
Jire, Afrika. Yeah, 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 pays joli.
Ah, ah. Para, Jalinango, Jire, Afrika.
Afrika. Oh, maman, voilà, que t'as mis la main.
Et oui, madame, monsieur, quelques faits historiques ayant marqué l'histoire des Noirs. Peut-être vous êtes déjà au courant. En 1807, l'abolition officielle de la traite des Noirs aux États-Unis et en Angleterre. Abolition de l'esclavage aussi dans les colonies en 1833. Abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1948. Fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. En 1956, signature de la loi sur le droit de vote des Noirs américains. 1956. Pas longtemps, hein. Et 1965, élection d'un premier président noir des États-Unis. Et voilà quelques dates historiques de l'histoire des Noirs, mais ici aussi au Canada, on pourra passer en revue. D'ailleurs, je vous invite d'aller sur le site du gouvernement fédéral pour bien saisir et où on vous donne aussi toutes sortes d'idées, des astuces aussi. Comment promouvoir à travers des activités dans des écoles, dans la communauté, au niveau de votre entourage. Il y a aussi des musées qui existent hein, au Canada pour retracer l'histoire des Noirs. Lincoln Alexander, qui est décédé, c'était le premier gouverneur de race noire ici en Ontario. Il y a tout un volet sur sa vie, sur ce personnage que j'ai eu l'occasion, le bonheur de rencontrer personnellement lors de son vivant. Alors ici nous pourrons parler de professeur Frederick Case qui nous a laissé trop tôt malheureusement, le premier directeur du département d'études françaises à l'université de Toronto, premier directeur de race noire de sa Guyane qui a voyagé à travers l'Afrique, la France, l'Europe et le Canada qui a aussi beaucoup contribué pour l'égalité des chances, l'équité en matière d'emploi et aussi le reflet de la littérature ou des littératures antillaises et africaines au cursus de l'Université de Toronto. Et il y en a d'autres encore qui continuent son œuvre, mais ne l'oublions pas parce que c'est grâce à lui que nous avons cette chance d'être à l'antenne depuis 29 ans. Merci beaucoup, professeur Frederick Case.
Alors, jeunes Africains, oyez !
Oyez !
Ah oui,
Rendez-vous là-bas, au Mongoulouba, aux jeux africains, au Sabamako. Rendez-vous là-bas, au Mongoulouba, aux jeux africains, au Sabamako. Rendez-vous là-bas, au Mongoulouba, aux jeux africains, où ça va Mako.
Bande Koba Bolingo, Bino Moko Boyebi, Masano Manene Mazali Namboka, Bamako. Ponayango, Toko Kamata Pepo, Tokende Nanzela, ya Bamako.
Et oui, mesdames, messieurs, là nous avons le directeur artistique du théâtre français qui est en train de cadencer au rythme de Bamako. Oui. Vous le voyez là? Vous faites très bien, monsieur Mignot. Ah oui. Il a le rythme dans la peau, hein, ce monsieur Guy Mignot. Hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et oui, tout ça dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, mesdames, messieurs.
À Bamako, Babi. À Toronto, baby.
Well. Une femme qui n'a jamais été en Haïti, une autre qui y retrouve et une qui ne l'a jamais quittée. Résume les artistes rencontrés cette semaine par le journal L'Express de Toronto. Et oui, espoir, si vous voulez, au Théâtre français de Toronto. Peut-on parler d'Haïti? Sera-t-on drôle, introspectif, gay, sur un fond musical et festif? Qu'est-ce que nous proposent justement ces trois auteurs et comédiennes de Espoir? Et pour nous en parler, nous mettre à la puce à l'oreille à monsieur Guy Mignot, le directeur artistique du Théâtre français de Toronto, mais aussi c'est lui qui a porté sa touche personnelle pour la réalisation de cette pièce. Bonjour Guy Mignot.
Bonjour Éric Cadet.
Alors, vous dansez bien, hein?
Ah, c'est pas mal.
Waouh. Ouais,
j'ai un peu chaud et je suis en train de travailler mon créole.
J'adore la télé-radio.
Oui.
On a beaucoup de plaisir ensemble.
Ah, ça c'est clair.
Ouais. Mais quand même, je vous inviterai à vous habiller un peu. Enfin, couvrez-vous un peu les orteils. Alors, cette pièce, on en a parlé d'ailleurs à un moment donné. Et puis là, ça a tramé chez vous, a tramé chez les autres. Et puis je trouve ça vraiment tout un chef-d'œuvre que vous offrez à la communauté francophone de Toronto. Et en plus, ça tombe très bien dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs.
Absolument. J'irais même jusqu'à dire que c'est presque calculé.
Ah ouais?
Mais c'est formidable. Ça fait 4 ans qu'on travaille à ce projet-là avec les trois filles, c'est-à-dire Caroline Zamar, Edwige, Jean-Pierre et Jenny Laguerre. Ça fait 4 ans, pas à temps plein, là, mais on travaille sur ce spectacle-là, sur cette pièce-là. Alors, c'est parti de 3 monologues, et puis c'est devenu une pièce. Mmh.
Alors, parlez-nous un petit peu, justement, de la création et l'idée, le fil conducteur de la pièce.
Le fil conducteur, c'est effectivement, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une pièce sur Haïti. Moi, ça faisait longtemps que je voyais Caroline et Edwige. Je les ai vus en audition quelques fois. Et puis, je leur ai dit à chaque fois que je voudrais travailler avec elles.
Vous savez qu'elle travaille déjà. Elle a déjà un boulot au Collège Boréal. Vous n'allez pas nous l'arracher de Boréal. On a besoin d'elle.
Mais vous savez qu'on a commencé à travailler avant qu'elle soit à Boréal, je pense.
Ah.
Oui, oui, ça fait 4 ans là qu'on est là-dessus. Et puis un matin, je me suis levé, puis j'ai dit bon ben on va les appeler, puis on va travailler ensemble. Alors, on s'est assis, puis on a dit écoute, puis on voulait pas que ce soit quelque chose de triste.
Oui.
J'ai dit la misère, l'esclavage, tout ça, on le sait. On le sait, puis vous trois, vous avez ça dans votre sang. Donc on n'a pas besoin d'en parler, ça va être présent de toute façon. Mais essayons de parler de où est-ce qu'on va à partir de maintenant. Mmh. Et c'est ça qu'on vous présente.
Donc ce n'est pas une pièce triste.
Oh, pas du tout. Ouais. Pas du tout. En plus, on a 2 musiciens sur scène, c'est-à-dire Tamsir Sek aux percussions et le splendide Paul Beaubrun qui nous arrive effectivement d'Haïti.
Alors donc, un peu d'humour?
Ah oui, beaucoup d'humour.
Beaucoup de joie, beaucoup de gaieté?
Beaucoup de gaieté, beaucoup d'humour. Beaucoup de plaisir et surtout, évidemment, beaucoup d'espoir.
Oui. Vous savez, j'adore Haïti et son peuple, mais malheureusement, on sait combien ils souffrent. Ils ont souffert sous les Duvaliers et tant d'autres encore. Et
exact.
Là encore, ils traversent par des situations assez tendues, difficiles au niveau politique. Et le tremblement de terre en 2010, ça n'a pas aidé les choses. Comment revoient ces 3 jeunes femmes, ces 3 jeunes comédiennes, auteurs, dans leur vie antérieure en tant qu'haïtienne?
Ben, en fait, Jenny est partie d'Haïti il y a plusieurs années. Carline est partie aussi il y a plusieurs années. Elle a étudié le théâtre en Suisse pendant un bout de temps. Et Edwige n'a jamais été en Italie, en Haïti.
Elle est étudiante, elle est l'Université
étudiante,
de Toronto.
Oui, oui. C'est ça.
Oui. Alors, pour elle, c'est de se replonger finalement dans un passé connu ou inconnu.
Oui, exact. Exact. Et on découvre, on a des expressions comme par exemple, tu vois, à un moment donné, Jenny dit à Edwige, tu vois bien que tu as la nostalgie du pays. On a dit, je le connais pas. Oui, c'est pas grave, mais t'as quand même la nostalgie de quelque chose que tu connais pas, ça se peut. Et c'est assez formidable. C'est un beau travail.
Je pense que pour les jeunes Haïtiens qui ne sont pas nés ou sont en contact régulier avec leur pays d'origine, c'est une belle façon de se renouer avec l'histoire, n'est-ce pas?
Absolument. C'est une belle façon de se renouer avec l'histoire, puis c'est une belle façon de regarder en direction de l'espoir.
Vous savez, depuis le début de cette émission, d'ailleurs j'ai eu quelques réactions, heureusement très positives, on ne connaît pas assez l'histoire des Noirs, l'histoire des Africains, l'histoire des Haïtiens. On pense la connaître, finalement, on ne fait pas affaire, ou on ne veut pas nécessairement tout connaître, tout découvrir, parce que sinon le choc serait tellement grand, n'est-ce pas?
Mais oui, mais c'est pas pour rien qu'on appelait Haïti la perle des Antilles. C'est pas pour rien que ça s'est appelé Hispaniola, cette grande île-là, nommée par Christophe Colomb. On devrait tout savoir, ça.
J'ai lu quelque part, vous dites que vous voulez donner l'espoir, d'où le titre de la pièce, Espoir. On veut montrer un Haïti qu'on ne voit pas. D'ailleurs, un proverbe haïtien veut que derrière les montagnes, il y a des montagnes.
Oui. C'est très juste. Mais il faut savoir les gravir.
Vous savez, moi, je viens.
Les premières et les secondes et les troisièmes.
Guy Mignot, oui. Je vais vous avouer un secret.
Allez-y.
Entre nous, hein.
Oui.
Personne ne nous écoute, n'est-ce pas?
Non, c'est ça.
Vous savez ce qui me manque à Toronto?
Allez-y.
Les montagnes.
Ah oui. Ah oui. Mais vous savez qu'une fois par. Une fois par année, je vais dans les montagnes, dans les Appalaches au Québec. Parce que j'ai aussi besoin des montagnes.
Oui. C'est fou, hein? Moi, chaque fois que je vais dans des îles, là, je regarde les montagnes. Moi, ça me fait rêver, vibrer avec la nature.
Je suis en harmonie
avec la nature.
Oui, ben dans notre spectacle, on en parle des montagnes.
Est-ce qu'on en voit des montagnes?
On en voit parce que pour voir nos spectacles, ça prend un peu d'imagination.
Alors, ça se débute le 24?
C'est exact, mercredi qui vient.
Oui.
Et ça se termine le 6 mars.
Oui. Alors, vous savez, nous avons lancé des concours. Il y a des gens qui veulent aller au théâtre. On vous remercie infiniment. On remercie aussi José Durand-Lot qui fait un travail de titan pour vous, comme toujours.
Tout à fait, oui, oui.
Alors, j'espère que les gens seront nombreux. Je vous rappelle, madame, monsieur, vous pouvez nous appeler au 86 946 7000 et on essaiera de voir qui sera l'heureux ou l'heureuse, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du Théâtre français de Toronto, n'est-ce pas?
Exactement. www.théâtrefrançais.com.
Vous faites un travail merveilleux. C'est dommage qu'on va perdre, je dirais, un monument dans notre ville. Non, mais c'est vrai.
Hein. On va être obligé de faire une statue.
Oui, oui, oui. Avant de terminer, et oui. C'est pas une question piège, il y a eu des manifestations des jeunes francophones là qui se sont mobilisés pour chercher leur université francophone.
Exact. Bon,
c'est un rêve, une utopie ou c'est une réalité?
C'est un rêve qui va certainement devenir une réalité. Mm. C'est pas une utopie. Et vous avez bien dit, les jeunes ont manifesté, j'en étais.
Ah oui, 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 oui.
Ça fait plus longtemps qu'eux que je suis jeune, mais j'en étais quand même.
Oui. Vous savez, on peut être jeune de cœur jusqu'à 90, 100 ans.
Absolument.
Hein?
Absolument.
Et vous l'êtes.
Et puis, on va se revoir là.
Oui, très bien. Alors, je rappelle encore une fois, peut-être une dernière invitation pour les gens qui tâtonnent, qui hésitent, comment faire pour acheter les billets et les dates de présentation de la pièce Espoir.
Alors, c'est du 24 février au 6 mars. Et puis, on peut téléphoner au Théâtre français de Toronto ou aller sur notre site à www.théâtrefrançais.com.
Très bien. Je vous remercie infiniment, cher ami.
C'est moi qui vous remercie et j'espère qu'on va vous voir.
Oui, bien sûr, je vais y passer. Et puis, je vous invite pendant le mois de mars, comme à chaque année, c'est le mois de la francophonie à l'antenne.
Absolument.
Donc, on fera une petite heure francophonie télé-théâtre.
Oui, 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 oui. Hein? Votre téléradio. Là.
Téléradio, oui, oui.
Oui, 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 ça va me faire plaisir.
Au revoir.
J'ai déjà hâte.
On vous aime beaucoup. Au revoir.
Merci, à bientôt. Bye bye.
À Port-au-Prince, le 23 mai, cette lettre est adressée à ma bien-aimée.
Pardon déjà pour l'écriture.
Pardon déjà pour l'écriture et les lignes brisées qui laissent à désirer.
Tout ça c'est pour te dire que
amène à peut-être pas la forme.
Amène à pas la forme.
Mais mon cœur et mes idées sont conformes. Qu'à tes pieds je veux m'agenouiller.
Être pour toi ce brave chevalier. Dis-moi oui et donne-moi la main. Je te le dirai encore demain. La plus belle phrase que le monde ait connue. Ooh,
baby, I love you.
You know, you know. You know, you know. Ooh, l'amour du ciel. You know, you know. You know, you know. Chaque nuit de réponse, dis-moi oui ou non. Mes nuits sont longues et sans sommeil. Car un rêve étrange toujours me réveille. D'une mer déchaînée, je ne sais pas nager. Les vagues sont trop fortes et le courant me bat. Mais avant de me noyer, je trouve la force de murmurer. La plus belle place que le monde ait connue.
Je t'aime,
I love you.
Avec toi.
mais plutôt au saxo.
Ah, j'aime bien cet air haïtien, madame, monsieur. Je vous rappelle que la pièce Espoir du 24 février au 6 mars au Théâtre français de Toronto, l'histoire de trois haïtiennes qui partagent une envie commune, ne plus s'attarder sur la tristesse et la misère, quand en fin de compte, mis à part un séisme, il n'y a qu'une seule autre chose assez puissante pour déplacer les montagnes, justement, c'est l'espoir. Alors, allez sur le site du Théâtre français de Toronto ou encore appelez-nous. Je pense qu'on avait Mathilde qui devait nous appeler. Elle a gagné un billet, mais malheureusement, on l'appelle, elle ne répond pas. Alors, c'est le 86 946 7000, notre numéro, si jamais elle est à l'écoute. Notre nouvelle qui a fait un peu la manchette cette semaine, c'est du déjà vu, incroyable, mais vrai, incroyable. Le gouvernement libéral de l'Ontario, tenez-vous bien, va mettre sur pied une direction générale de l'action contre le racisme qui travaillera à lutter contre le racisme sous toutes ses formes, y compris le racisme individuel, systémique et culturel. On l'avait, cette direction. On avait ce programme de bureau antiraciste. Pourquoi l'a-t-on coupé, enlevé, démoli pour après... Enfin, incroyable. Donc le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, Michael Coteau, qui gérera ce dossier en tant que ministre délégué à l'action contre le racisme, a donné une conférence de presse entourée des membres de la communauté. Sera bien de voir aussi s'il va avoir stigmatisation, discrimination vers les personnes vivant la santé mentale, justement, le VIH, SIDA. Alors, très très important, je pense, de suivre ce dossier dans la communauté francophone aussi, parce que le racisme existe bien, et bel et bien dans la communauté francophone aussi. Un ministre donc délégué qui interviendra auprès des autres ministères, la procureure générale Madeleine Meilleur, aussi ministre responsable des affaires francophones, par exemple, les ministres délégués des affaires francophones pouvant donc s'immiscer dans l'action de ses collègues quand ça touche à la francophonie, n'est-ce pas? Donc, c'est à suivre. La nouvelle direction générale antiraciste, madame, monsieur, travaillera avec des partenaires clés tels que des entreprises privées, organismes communautaires, institutions d'enseignement et la Commission ontarienne des droits de la personne. Si j'ai encore du temps, rapidement, j'ai vu un article dans le journal Express de Toronto. D'ailleurs, nous avons reçu un communiqué. C'est le lycée français de Toronto qui fête ses 20 ans en 2016. On essaiera de faire une petite activité. Puis j'ai vu aussi quelque chose sur le... je pense que c'était la Société d'Histoire, hein, la Société d'Histoire qui nous a envoyé une petite invitation, conférence de la Société d'Histoire prévue pour le mercredi 24 février à 19h à l'Alliance française de Toronto. Et l'invitée conférencière, Salomé Vigué, commissaire et administratrice culturelle. Et ça s'annonce très intéressant. Vous pouvez aller sur le site de la Société d'Histoire de Toronto ou encore l'Alliance française de Toronto pour tout savoir. 24 février à 19h à l'Alliance française. C'est situé à 24 chemin Spadina. Spadina Street, c'est le métro Spadina. Bien sûr. Alors voilà, je remercie beaucoup DJ Devera d'avoir été là. Merci au professeur historien et animateur et notre grand ami Radio France Internationale, Elikia Mbokolo. Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo, un grand merci. Guy Mignot, directeur artistique du Théâtre français de Toronto, et merci pour les cadeaux. Le journal Express de Toronto et Radio France Internationale Musique. Ici Eric Adair, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bon dimanche et...
La fête depuis après carnaval là, nous pas jamais fini gueule.
Côté le passé, nous
pas bien
la peine.
souvent pour les détruire.